الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La dernière fois, on avait expliqué brièvement quelle était l'importance de connaître les signes de Qiyamah. On a vu également que concernant la foi sur Al-Yawm Al-Akhir, il y a ce qu'on appelle le iman qui est obligatoire et il y a le iman bi-tafsir, ce qui est mustahab de savoir. Et le but de ce majlis, c'est de savoir ce que Allah Ta'ala nous a informé par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par les hadiths, ou alors directement dans le Coran concernant la fin du monde. On ne parle même pas de Qiyamah, on parle tout d'abord de la fin du monde. Et on avait dit la dernière fois que comme Allah Ta'ala a créé, a commencé la création avec un certain tartib, Allah Azza wa Jal détruira la création également avec un certain tartib. Ce n'est pas que pour que le Qiyamah se produise, Allah Ta'ala ordonne à la terre et aux cieux, aux montagnes, aux mers de s'assécher, d'imploser ou de disparaître. Non. Avant la fin du monde, comme on dit proprement, le terme est propre, avant la fin du monde, et on dirait même plus avant la fin de l'univers. Avant la fin de l'univers, Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait des signes, ce qu'on appelle Al-Ashraf. Et on avait expliqué également qu'il y a deux catégories de signes, les petits signes de Qiyamah et les grands signes de Qiyamah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec les Ashraf ou Sa'a-Sughra, les petits signes de Qiyamah. Mais avant cela, on aimerait préciser que concernant le Qiyamah, aucune créature, aucun makhlouq ne peut s'avancer, ne peut dire quand aura lieu la fin du monde. Allah Ta'ala dans le Coran, يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. Lorsque les gens posaient des questions à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Qiyamah, as-sa'a, la fin du monde, Allah Ta'ala a ordonné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل إنما علمها عند الله, que la connaissance, cette connaissance et auprès d'Allah uniquement. Le seul qui connaît quand aura lieu le Qiyamah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, croire au jugement dernier, croire à la destruction du monde, comme on a dit la dernière fois, cela fait partie des arkan al-iman, des branches de la foi, comme Allah ta'ala dit dans le Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah ta'ala décrit les mu'minin comme étant des personnes qui ont la foi en ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les livres qui ont été révélés avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mu'min, c'est également celui qui accomplit sa salat, celui qui s'acquitte de la zakat, et le mu'min, c'est également celui qui croit en Allah et qui croit au jugement dernier. Donc, croire au qiyamah, à la fin du monde, cela fait partie du iman. Si quelqu'un a un doute dessus, son iman n'existe même pas. On ne dit pas que ce iman n'est pas complet. On dit que la base du iman n'y est pas. Et comme on a dit, le but de ces durous, c'est comprendre la fin du monde et comprendre ce qu'il y a avant la fin du monde. Alors pour revenir, je suis en train de dire que personne ne connaît quand aura lieu le qiyamah. Même le prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui de loin était la meilleure des créatures, meilleure que les anges, meilleure que n'importe quel djinn, meilleur que n'importe quel autre prophète, n'importe quel autre être humain, lui-même ne savait pas quand aura lieu le Qiyamah. On connaît ce hadith très connu, très cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la visite de Hazrat Jibra'il alayhi salam, qui était venu sous l'aspect d'un voyageur, avec des vêtements très blancs. Il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je suis assis en ce moment, la position du Qaïda. Cette position, très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé des questions à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi. Et à chaque fois que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à une de ces questions, il disait sadaqta, sadaqta, tu as dit vrai. Les sahaba ne comprennent pas, dit quelqu'un vient de l'étranger. Déjà c'est quelqu'un, là c'est, il ne comprenait pas qui c'est cette personne, c'est un étranger, donc quelqu'un qui a fait un long voyage, il arrive dans Masjid Nabawi, il a des vêtements blancs, il n'y a aucune trace de safar, aucune trace du voyage. Déjà, ils sont un peu perplexes sur l'identité de la personne. Cette personne pose des questions de base, des questions sur l'iman, et lorsque le prophète répond, c'est comme s'il connaissait déjà. c'est presque à la limite du manque de respect. Je ne dirais pas que c'est un manque de respect, mais c'est presque ça. Les sahaba, ils se disent que quelqu'un vient de l'étranger. Il pose des questions pour Assassin Lam, le prophète Assassin lui donne la réponse et dit c'est vrai. C'est comme si que je savais, je suis venu te tester. En fait, c'était ça. C'était Jibril alayhi salam qui était venu enseigner aux musulmans les bases de la religion. Le prophète alayhi salam a répondu à toutes les questions, sauf à une seule question, lorsque Jibril alayhi salam demandait à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand aura lieu la fin du monde, quand aura lieu le qiyamah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui demande ne sait pas mieux, ne connaît pas mieux que celui à qui on pose la question. Voilà le contraire. Celui à qui on pose la question, voilà, celui à qui on pose la question, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire le prophète, ne sait pas plus que celui qui interroge. Et les ulama, rahimahumullah, dans les commentaires du hadith, ils disent que cela convient qu'il est impossible à une créature, quel que soit son niveau, quel que soit son degré de iman, de connaître quand on va lire le qiyam. Parce que là, on a affaire de un prophète qui est le meilleur des hommes. Et de loin le meilleur de toutes les créatures. Et on a affaire au meilleur des anges, Hazrat Jibril alayhi salam. Aucun ange n'équivaut à Jibril alayhi salam. Dans certains hadiths, concernant Laylatul Qadr, il explique comment Jibril alayhi salam descend spécifiquement la nuit de Laylatul Qadr et il déplie ses ailes. Et on décrit les ailes de couleur verte d'une beauté exceptionnelle qui atténue la lumière du soleil lorsqu'il se lève. Vraiment, la description de Jibril alayhi salam, c'est extraordinaire. C'est le plus grand des anges. Notre prophète sallam, c'est le plus grand des hommes, le plus grand des makhlouqat. C'est le meilleur des hommes. Et le meilleur des anges ne sont pas au courant de la date du qiyamah, alors il est clair. Personne après eux ne peut prétendre connaître quand aura lieu le qiyamah. Et même le prophète qui sera le plus concerné par le qiyamah, par la fin du monde, par les signes du qiyamah, c'est qui? C'est Hazrat Isa alayhi salam. Dans le Mi'raj, dans le Isra, dans la partie où le prophète sallam était au Bayt al-Maqdis, le prophète sallam avait rencontré les Anbiya alayhi salat wa salam et il avait officié la salat. Vous connaissez l'histoire. Et à la fin de la salat, les Anbiya, les prophètes, ont tenu une conversation. Et un des sujets de la conversation, c'était sur le Qiyamah, sur la fin du monde. Et le hadith de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ali nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Laqaitu laylat al-Isra bani Ibrahim » لقيت ليلة إسراء ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. وسنتي que j'ai rencontré Ibrahim عليه السلام, موسى عليه السلام et عيسى عليه السلام. فتذاكروا أمر الساعة. Et ils ont conversé à propos du Qiyamah. فردوا أمرهم إلى إبراهيم. Alors ils ont laissé Ibrahim عليه السلام parler du Qiyamah. فقال لا علم لي بها. Ibrahim عليه السلام a dit carrément je ne connais rien concernant le Qiyamah. Faraddu l'amra ila Moussa. Ils ont laissé Moussa alayhi salam dire ce qu'il connaît sur le Qiyamah. Faqala la ilma li biha. Dit je ne sais pas. Moi non plus je n'ai aucune connaissance sur le Qiyamah. Faraddu l'amra ila Isa. Ils se sont adressés à Isa alayhi salam, donc à Jésus. Faqala amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallahu dhalik. Isa alayhi salam a commencé à parler du Qiyamah et il avait la connaissance. Il a dit, mais tout d'abord, concernant le moment où aura lieu la fin du monde, ça, Allah seul le sait. Illallah, Allah seul le sait. وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ فَقَالَ Il a akhida hadith, c'est assez long, mais le shahid, ce qu'on veut du hadith, c'est là. Il dit que, et parmi les choses qu'Allah a promis avant le qiyamah, la venue de Dajjal, et puis Isa alayhi salam va parler comment il va détruire, il va tuer Dajjal, mais ça, c'est pas le moment. Donc, Isa alayhi salam. Et les ulama expliquent bien que Isa alayhi salam, on pourrait le dire, est au centre des débats. C'est le prophète le plus concerné par les signes du Qiyamah. Parce que dans l'existence de Isa alayhi salam, il aura à faire face à trois grands signes. Premièrement, Imam Mahdi. Lorsqu'Imam Mahdi est présent, c'est durant le vivant d'Imam Mahdi que viendra Isa alayhi salam, hein, de Damas. Et Imam Mahdi, Isa alayhi salam prendra le relais de l'imam Mahdi. C'est-à-dire que l'imam Mahdi, c'est comme si il remet en Dieu le khilafa, hein, il remet les clés de la Ummah à Isa alayhi salam, et à partir de ce moment, c'est Isa alayhi salam qui mène les débats et c'est lui qui dirige la Ummah. Donc, à l'époque de Isa alayhi salam, il a affaire à l'imam Mahdi. À l'époque de Isa alayhi salam, apparaît Ad-Dajjal. Et c'est Isa alayhi salam qui va tuer Ad-Dajjal de ses propres mains. À tel point que les hadiths précisent que les gens vont voir le sang de Dajjal sur la lance de Isa alayhi salam, afin que les gens constatent de visu de leurs propres yeux que Dajjal n'était qu'un être humain, il n'était pas Dieu. Oui. Donc Isa alayhi salam a fait un imam Mehdi à Dajjal, donc des gros morceaux, et il a fait un autre gros morceau, petit mais nombreux, Ya'juj wa Ma'juj. Parce que c'est à l'époque de Isa alayhi salam également, après le moment de prospérité, après la disparition de Dajjal, après apparaîtra Gog et Magog, et c'est Isa alayhi salam, là encore une fois, qui aura un rôle principal dans l'élimination de ce fléau. Ce n'est pas par le combat, parce que les musulmans recevront l'ordre d'Allah de rester loin de ces créatures. On n'a pas le droit de les combattre. Ça c'est l'ordre d'Allah concernant Ya'juj et Ma'juj, mais Isa alayhi salam fera droit pour qu'Allah ta'ala détruise ces gens, et on connaît comment Isa alayhi salam, son droit sera accepté, il y aura des doudas qui vont attaquer Gog et Magog au niveau de leur gorge, ils vont mourir, et puis la terre sera infestée de leurs cadavres, et puis il y aura une pluie qui va venir. Il a fait les hadiths, on connaît l'histoire. Voyez, donc Isa alayhi salam aura fait à trois signes majeurs de Qiyamah. Malgré cela, il ne sait pas quand aura lieu le Qiyamah. Donc on comprend bien que cela fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et uniquement lui connaît. Voyez, mais croire au Qiyamah, c'est quelque chose de wajib, d'obligatoire. Maintenant, on passe à autre chose. Ça paraît folklorique, mais quand on voit qui sont les ulamas qui sont derrière ce travail, il n'y a pas de quoi rire. Certains ulamas ont, à travers les hadiths ou à travers d'autres signes, ils ont fait des recherches pour essayer de trouver une date approximative de la fin du monde. Alors, ça peut paraître vraiment fantaisiste, mais quand on voit des noms comme Imam Tabari, Imam As-Suyuti et As-Suhayli, là, on se dit que ben, vraiment, ils ont fait un effort. Mais leur effort s'est avéré infructueux. Et ce n'est pas eux qui a constaté que leur effort était infructueux, c'est ceux qui sont venus après. Imam Tabari, rahimahullah, selon ses recherches ont abouti au fait que certainement la fin du monde aurait lieu 500 années après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on part du principe que notre prophète alayhi wa sallam est venu sur cette terre au 6e siècle du calendrier grégorien, c'est à peu près ça, au 6e siècle, donc si on rajoute 500 années, ça nous fait donc le 11e siècle. Selon l'imam Tabari, le Qiyamah aurait dû avoir lieu, il n'a pas vécu cette époque. Il a analysé les hadiths, c'était ce qu'il pensait, que le Qiyamah aurait lieu le 11e siècle, et on a bien vu qu'imam Tabari, malgré la connaissance qu'il avait en tafsir, mais sur ce masala, il s'est trompé. Imam Suyuti, rahimahullah, selon lui, le Qiyamah il pensait que le Qiyamah aurait lieu 1105 années après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1105 années, cela correspond à peu près au 17e, voire au 18e siècle. Mais on a vu le 17e siècle passer, le 18e, le 19e, on est au 21e siècle. On a vu que même Imam Suyuti, malgré la connaissance qu'il avait dans différents domaines, il n'a pas pu mettre une date fixe sur le Qiyamah. Également Imam As-Suhayli et d'autres A'imah, ils ont essayé. Cela nous prouve bien que même ces A'imah qui avaient un degré de connaissance inaccessible, même eux, ils n'ont, malgré le ijtihad, leur effort, ils n'ont pas su détecter quand aura lieu le Qiyamah. Et celui qui connaissait plus que n'importe qui les signes de Qiyamah, plus même que Hazrat Isa alayhi salam, c'était notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a aucun doute là-dessus. On sait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus grand alim de tout l'univers. C'était celui à qui Allah Ta'ala avait, c'était le seul homme qui avait la connaissance en même temps du Tawrat, du Injil, de Suhuf Ibrahim, de tout ce qui a été révélé avant lui, et qui en plus connaissait le Coran. Les Anbiya alayhi wa sallam, avant, ils connaissaient le livre qui leur avait été révélé, voire ce qui avait été révélé avant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît tout ce qui concerne Badkul Khalq, le début de la création, et tout ce qui concerne la destruction de la création. Hadith impressionnant, totalement contraire aux habitudes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sahaba rapporte comment une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un long sermon, très très long, alors qu'en général, les sahaba disaient « Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluna fil maw'idha makhafata sa'ma minna » ou comme a dit alayhi wa sallam, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait jamais de longs discours. Jamais le prophète ne faisait des baïans de 2h30, 2h30, 3h30. Jamais. Ce n'était pas de ses habitudes. Pourquoi? Ma foi, en fait, de crainte de qu'est-ce qui se passe à ça. À ça, c'est quoi? La lassitude. Le prophète ne voulait pas que les sahaba étaient lassés d'écouter ses paroles. Donc, les sermons du prophète sallam étaient toujours très courts. Et le prophète aimait les paroles courtes. Ma dalla wa qal. Les paroles qui étaient courtes, ma qal. C'est l'inverse. Ma qalla wa dal. Les paroles qui étaient courtes, qui étaient concis, mais qui voulaient dire beaucoup de choses. Tout était résumé dans peu de choses. Mais là, c'était l'exception. Hadith de Abu Zayd Amr. Al-Ansari, radiallahu anhu, قال صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَجْرِ وَصَعَدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرِ. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a officié la prière du Fajr. Et après le Fajr, il s'est assis sur le minbar et il a tenu un long discours jusqu'au namazuhur. فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرِ. Après le namazuhur, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réinstallé sur le minbar. Il a repris le discours, il a continué de Zohar jusqu'à Asar. ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسِ. Et il a repris le discours après l'Asar jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire depuis le Fajr jusqu'à Zohar. Asar, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, le Prophète a tenu le plus grand discours qu'il n'a jamais tenu aux Sahaba. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé de tout et de n'importe quoi. Un sujet précis. فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنَ. Ça, c'est exceptionnel. Ce qui nous prouve le degré de ilm, le degré de connaissance qu'avait notre Prophète, le degré de connaissance qu'avaient les Sahaba et la quantité de choses que les Sahaba nous ont transmis à travers les hadiths. Il a dit que notre Prophète nous a informé de tout, depuis le début. Bima huwa ka'in, depuis le début jusqu'à ce qu'il y a en ce moment, il nous a tout expliqué. Et celui, les Sahaba parmi nous qui avaient une meilleure mémoire, ce sont eux qui ont tout retenu. Et le hadith dit même, les sahaba, ils expliquent, celui qui rapporte le hadith, il dit même, أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كان إلى أن تقوم الساعة. Il nous a expliqué tout jusqu'à ce qui aura lieu le jour de Qiyamah. فما منه شيء إلا قد سأله. Le sahaba dit, si je ne me trompe pas, c'est Abu Huraira, Hudhayfa. Hudhayfa dit que je lui ai posé toutes les questions que je voulais. À chaque fois qu'il disait des choses, je lui posais des questions, sauf une chose. Illa annahu lam as'alhu ma yukhriju ahl al-Madina min al-Madina. La seule chose que je ne l'ai pas demandé, c'est pourquoi à la fin des temps, les gens, les habitants de Madina vont-ils quitter Madina. C'est la seule chose que Hudhayfa n'a pas, on ne sait pas, est-ce qu'il n'a pas osé, ou est-ce qu'il n'a pas pu, est-ce qu'il n'a pas voulu, mais il dit, c'est dans Sahih Muslim, c'est la seule chose qu'il n'a pas demandé, pourquoi à la fin des temps, les gens de Madina vont-ils quitter la ville de Madina Munawwara. On voit comment le ilm que les Sahaba ils ont obtenu de la part de Prophète. Et là, Sahaba, on voit également qu'il dit que celui qui avait une bonne mémoire a tout retenu. Et celui qui oubliait, ben, il a oublié. On voit l'importance du hifz, l'importance de la mémoire dans la parenthèse, dans la transmission de la connaissance. À un tel point que ça c'est complexe. Dans le ilm du hadith, dans la connaissance du hadith, il y a ce qu'on appelle l'ilm al-rijal. Il y a une science spécifique concernant les personnes qui transmettent les hadiths. Et il y a des conditions extrêmement pointilleuses. Il y a des conditions extrêmement pointilleuses sur les personnes qui rapportent des hadiths. Il faut que ce soit, bien sûr, des gens muttaqis, des gens qui sont irréprochables sur leur pratique de la religion, mais également irréprochables sur les choses de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les muhaddithines ne mangeaient jamais en public. C'était aïb, ils considéraient comme un défaut que les personnes voient un muhaddith manger. Maintenant, c'est quoi? Manger un sandwich, boire une boisson? Non. Pour eux, c'était hayat, c'était une pudeur, c'était un certain respect qu'ils imposaient. Également, parmi les conditions de riwayat al-hadith, c'est ce qu'on appelle al-dhabt. Al-dhabt, c'était quoi? C'était le hifz. La personne devait prouver qu'elle avait une mémoire infaillible. Si une personne n'avait pas une bonne mémoire et qu'elle se contentait d'écrire les hadiths, son riwayat n'était pas accepté. Parce qu'on ne se basait pas sur les écrits, mais on se basait uniquement sur la mémoire. Et également, dans les riwayats de tarikh, dans les événements de l'histoire de l'islam, depuis l'époque des Umayyades, les Abbasides, jusqu'à l'Empire Ottoman, tout était basé sur la mémoire. Et, voyez, à tel point que, mais ça c'est quelque chose de vraiment agile, si les élèves constataient que le cheikh, c'est-à-dire celui qui rapporte les hadiths d'un rapporteur des hadiths qui remonte à Tabi'in, s'il s'avérait que le cheikh répétait le même hadith dans deux majlis, c'était une preuve qu'il y avait une déficience dans sa mémoire. Parce que normalement, on ne se répète pas. S'il voit que, on ne dit pas le mot hadithi, parce que là on parle des ulama de hadith. S'il racontait deux fois le même hadith, cela voulait dire qu'il avait une défaillance dans la mémoire, il a oublié qu'il avait déjà raconté ce hadith, et là, ceux qui analysaient, il y a des gens qui étaient, j'allais utiliser un terme, mais il y a des gens qui étaient au courant de tout, qui étaient au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui se disait, d'accord, mieux que tous les jours, et ils observaient ces machaïr. S'ils voyaient un moindre déficience, ils disaient que ça, c'est ton rivaille, que ce cheikh-là, on ne peut plus prendre les hadiths de lui. Et il datait qu'à partir de, je dis une date au hasard, à partir de l'an 429, tel cheikh commence à répéter les mêmes choses, donc à part tout ce qu'il va dire après l'an 429, on ne tient plus compte. Tout ce qu'il a raconté jusqu'à le premier Muharram 429, c'est hadith, c'est authentique. Ce qui vient après cela, c'est à partir de cette date qu'il a commencé à perdre sa mémoire. Ça, c'est pour nous montrer comment, dans l'islam, le hifz, hein, la mémoire est importante. Et c'est grâce à cette mémoire que les sahaba, les tabi'in, tous les ulama de l'islam, ils se sont transmis les hadiths par les chaînes de narration, que ces hadiths sont aujourd'hui présents, hein, imprimés dans nos livres. On va voir par la suite que, vous savez, le nombre de livres, de connaissances, de ilm, de hadith, de tafsir, de aqida, de massa, de fatwa, tous ces livres qui sont présents, ça aussi c'est des signes de qiyam. Les petits signes de qiyam. On va voir ça par la suite. La Prophète me dit que parmi les petits signes de qiyam, intishar al-ilm, ou alors le hadith dit bath al-ilm, que la connaissance est partout. De nos jours, allez sur Google. Faites publicité, allez sur Google, sur Yahoo, sur n'importe quoi, sur Youpi aussi, tapez Islam. Vous allez voir combien, je ne sais pas si c'est par centaines ou par milliers de sites qui parlent de ça. La connaissance religieuse est accessible par un clic. Donc, quelle que soit la langue que vous parlez, la connaissance religieuse est accessible. Et ça, c'est un ni'mat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est un ni'mat. Mais en même temps, cela concrétise ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, que à la fin des temps, la connaissance sera partout. Mais, quel genre de connaissance? Elle est partout, sauf dans les cœurs. On peut avoir 2,5 de livres à la maison, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a comme pratique, là c'est autre chose. Vous voyez, je pense que concernant les muqaddimah, ça fait partie de l'introduction également, on va s'arrêter, inshallah, parce que si on parle que de l'introduction, ça devient lassant. Et le but d'un programme, il ne faut pas que ce soit lassant. Notre passage ne faisait pas de programme long, pas de khutbah long, pourquoi pas lasser ça. Donc nous aussi, concernant l'introduction, on s'arrête. Par contre, on continuera l'introduction par la suite, mais on va commencer, entrer légèrement dans le vif du sujet en examinant quelques petits signes de qiyamah. Et là, on va voir que, et là, vous allez vous rendre compte que tous les petits signes que nous allons citer, ce sont des signes qui se sont déjà produits. Il n'y a rien, mis à part quatre signes de qiyamah qu'on n'a pas vu, mais sinon, tous les signes qu'on va citer existent déjà. Alors le premier signe de Qiyamah, bien sûr, c'est la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le décès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des signes, il y a différentes classifications des signes. On a opté pour une autre classification, c'est concernant différents domaines de la vie. Alors concernant l'islam, parmi les petits signes, et puis par la suite on va développer, là on dit juste les titres, parmi les petits signes de Qiyamah, le fait que la religion va diminuer, la religion va reculer d'année en année. Parmi les petits signes également, le fait qu'une personne qui reste ferme dans sa pratique sera perçue comme une personne qui exagère, comme une personne étrange. Et ce qui est dommage, wallahi al-azim, ce qui est dommage, c'est quand ce genre de parole vient de la bouche des musulmans. Quand ils vous voient pratiquer, ils gardent la barbe. Un jeune qui est au lycée garde la barbe. Ou une jeune fille qui met son châle dit qu'il est trop jeune pour faire ça. Ce n'était pas nécessaire. L'islam est beaucoup plus simple. Ou alors, lorsqu'on essaie de faire des recherches un peu dans les transactions financières. Il y a certaines transactions financières dont le côté haram, c'est vraiment microscopique. Il faut faire très attention. Il y a l'intérêt, tout ça. L'intérêt, le leasing, le crédit, tout ça, c'est clair. Il n'y a même plus besoin d'en parler. Mais il y a certaines transactions financières que parfois nous pratiquons, mais si on analyse bien, il y a un côté, il y a 10% haram. Est-ce qu'un musulman qui a taqwa, il accepte 10% haram dans son compte? Jamais de la vie. Et on trouvera des musulmans qui vont dire, oui, mais de nos jours, on est dans un pays occidental, on est en Europe, les choses sont différentes, il y a des choses beaucoup plus... Ça, c'est un piège de shaitan, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que de faire de telles recherches. Ça fait partie des signes de Qiyamah, qu'une personne qui pratique sa religion est perçue comme quelqu'un d'intégriste, comme quelqu'un d'extrémiste. Ça, c'est les grands mots. Ça, c'est les grands mots du 21e siècle. Également, parmi les petits signes de Qiyamah, que la foi, ça c'est pas maintenant, la foi à la fin des temps retournera vers Al-Haramayn. Le iman retournera vers Makka et retournera vers Medina. Également parmi les petits signes de Qiyamah, dhihab et dhihab al-khushu' min an-nas, les gens auront de moins en moins de dévotion de la pratique. C'est un signe concernant le da'wah. C'est un signe concernant le da'wah, le fait qu'à une certaine époque, on ne trouvera plus de gens qui invitent vers le bien et qui interdisent le mal. Pire encore, certaines personnes considéreront les choses mauvaises comme bonnes. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec son temps. Certaines choses, il peut être interdit avant, mais dans notre contexte, c'est pas grave. Ça, c'est un grand fitna. Et certaines choses qui sont bonnes comme étant, c'est des choses anciennes qu'il ne faut plus pratiquer. Parmi les petits signes de Qiyamah concernant le da'wah, le fait qu'il y ait plus de gens qui font des péchés que les gens qui interdisent des péchés. Également, maintenant, les signes de Qiyamah concernant la connaissance religieuse, concernant le ilm. Ah, et ça fait mal. Ça fait mal, mais on le dit. Taïb, le fait qu'avant le Qiyamah, Allah Ta'ala reprendra, mais ça c'est vraiment avant le Qiyamah, Allah Ta'ala reprendra la connaissance religieuse. Et ce n'est pas qu'il n'y aura plus de ilm, c'est que la connaissance religieuse quittera ce dunya par le décès des ulama. Par le décès, pas nous les ulama, on est des plaisantins, wallah. Avec les 6 années, 7 années d'études qu'on fait, nous sommes en division d'honneur. Les vrais ulama, c'était Ashab al-Qurun al-Mufada, Imam Bukhari, Muslim, al-Nasai, c'est Abu Hanifa, c'était Malik, c'est Shafi. Est-ce qu'on retrouve quelqu'un de la trempe d'Abu Hanifa de nos jours? Est-ce qu'on retrouve quelqu'un du niveau de connaissance que Imam Ahmad? Ou quelqu'un qui avait la connaissance des hadiths comme Imam Bukhari? Ça, par le décès du ulama, Allah Ta'ala reprendra la connaissance. Parmi les petits signes de Qiyamah concernant la science religieuse, le fait qu'il y aura beaucoup de qari. Beaucoup de grands khatib, des gens qui feront de très beaux khutbas, mais peu de gens qui auront la véritable connaissance. Parmi les petits signes de Qiyamah également, c'est le fait, ça c'est complexe, c'est la circulation des nouvelles. À travers des écrits, on saura tout concernant tout. Et dans les commentaires, ça c'est pas moi qui dis, moi je ne dis rien, wallah, je n'apporte que très peu de choses. Parmi les commentaires du hadith, celui qui écrit le livre, il dit que, selon lui, cela, et ça je ne sais pas à quelle époque il a écrit aussi, c'est quelqu'un qui a vécu en 1500, c'est-à-dire là, on est 1500 de Hijra, je ne sais pas ça fait quoi, 1413. Donc, ça remonte à 10 ans ou 15 ans, c'était avant Internet. Vous voyez? Il dit qu'il voit la circulation des nouvelles de tout, vous saurez tous sur n'importe quel sujet, sur la vie des gens. Il voit cela par l'apparition et la vente de magazines. Mais on irait même plus loin aujourd'hui. Par l'internet, on sait tout à propos de n'importe quel sujet. Dîn ou dunya, même les détails, même ce qui concerne les people, n'importe quoi. Ça fait partie des petits signes. Également, parmi les petits signes concernant la connaissance religieuse, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup de connaissances, beaucoup de rimes, beaucoup de livres, mais peu d'actions. Également, ظهور القلم, le fait que l'imprimerie, les ulama disent que c'est l'imprimerie, c'est-à-dire que l'écrit, les gens sauront écrire, la maîtrise de l'écriture sera âme. Également, des personnes iront à la recherche de la connaissance de la religion, mais le niyat, ce sera le dunya, et non pas le din. Les signes de Qiyamah concernant maintenant l'argent, les biens, qu'il y aura peu de gens qui travailleront avec l'argent halal. Et ça, c'est un fait. Peu de gens qui travailleront uniquement avec l'argent halal. Également que les gens ne porteront plus attention au haram. Les gens ils diront que le travail avec telle chose, ça fait partie des nouvelles méthodes du commerce, donc c'est des choses jaïs. Parmi les signes de Qiyamah concernant le commerce, c'est bon, le fait que les femmes et les hommes feront le commerce ensemble. Également parmi les signes de Qiyamah concernant le commerce, là évidemment il faut un commentaire ajib, le fait que ça s'appelle ça taqarrub al-aswaq, le rapprochement des souks, le rapprochement des commerces. C'est-à-dire que d'un pays à l'autre, les transactions seront rapides. Alors qu'avant, pour qu'une caravane vienne de Cham ou de la Syrie jusqu'à Mecca, Medina, combien de temps il faut? Combien de chameaux il faut? Combien de mois de voyage? Mais arrivera une époque où le commerce va se faire très rapidement. Et c'est ce qu'on constate. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Les petits signes de on va voir par la suite. Quand on dit petits signes de Qiyamah, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Cela veut dire que c'est une réalité. C'est un changement dans les modes de vie. Il y a certaines choses parmi les petits signes de Qiyamah qui sont mauvais, d'autres qui ne sont pas mauvais. La venue du Prophète fait partie des petits signes de Qiyamah. Ça veut bien dire que c'est le tartib d'Allah. Allah a décidé que les choses changeront et prendront telle courbe ascendante ou descendante, mais Allah a organisé les choses de la sorte. Ça ne veut pas pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des choses mauvaises. Voyez? Donc le fait que les commerces vont se rapprocher, ça fait partie des signes concernant, on va finir dans 2 minutes, Inch'Allah, concernant les femmes, on aura l'occasion d'en parler, concernant les, comment on pourrait dire ça de manière plus pudique, concernant les rapports intimes. Parce que même dans un bayan, je suis contre le fait de dire des mots crus. Il y a cette haya dans une masjid. Je suis d'avis qu'on ne peut pas parler de certaines choses de manière crue. Hazrat Ali, radiallahu anhu, il devait poser des questions sur le processus concernant la sécrétion, comme les médecins les appellent, si je ne me trompe pas de thème, je ne suis pas médecin, la sécrétion pancréatique, excusez-moi si ce n'est pas ça, quand un homme veut avoir des relations avec son épouse, est-ce que cela annule le bouzou ou le roussa, etc. Il faisait demander par quelqu'un. Voyez, parce qu'il était marié avec la fille. Il y a cette haya. Donc concernant les rapports, concernant les habitudes des gens, ce qu'on appelle al-jins, les rapports intimes, il y a tout d'abord, comment ça se concerne les femmes, taqdim al-zawjat la'uniyya, zuhur al-zina, bien sûr, le fait que le zina deviendra quelque chose de totalement légal, le jour, au nom de la liberté. Au nom de la liberté individuelle, on permet le zina, on permet qu'il y ait des clubs d'échangistes. Bon, on ne critique rien, mais l'Occident considère la polygamie comme quelque chose d'ignoble. Mais qu'un homme ait deux ou trois maîtresses, ou qu'un homme oblige son épouse à participer à un club d'échange, et Wallah, qu'est-ce qu'on n'entend pas de nos jours? Allah nous pardonne pas, Allah nous protège, cela fait partie de la société du 21e siècle. Il y a une autre perception des choses. Parmi les petits signes de Qiyamah concernant cela également, Iktifa ur-Rijal ibn-Rijal, ou An-Nisa ibn-Nisa, c'est ce qu'on appelle couramment l'homosexualité, que les hommes vivront avec les hommes et les femmes avec les femmes. Également, At-Taghayyur 'ala al-ghilman. Et ça, on en plein dedans. Surtout depuis une dizaine d'années, c'est le fait qu'il y ait des gens qui ont un désir pour les enfants. Ce qu'on appelle clairement la pédophilie. La pédophilie également, ça fait partie des petits signes de Qiyamah que les gens, que certaines personnes malades, ils ont des pulsions envers les enfants comme un homme doit avoir des pulsions envers des femmes. Ça, c'est des réalités. Également, le fait que beaucoup de naissances seront illégitimes. Et de nos jours, si on regarde les chiffres, combien de personnes se marient encore? Combien de personnes, en métropole, en France, en Angleterre, dans n'importe quel pays, ils donnent encore de l'importance au mariage? On pourrait faire le concubinage, on pourrait changer lorsqu'on est lassé de quelqu'un, mais la plupart des naissances sont illégitimes. Également, istihlalement, ce qui concerne l'alcool, etc. Parmi les signes de Qiyamah concernant les constructions de plus en plus haut. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on a entendu parler de la hadith qu'on ne va pas monter des immeubles. Non, c'est un fait. Cela se produira de la sorte. Également, naqshul bunyan, le fait que les constructions seront de plus en plus ornées, de plus en plus belles. Il n'y a qu'à regarder Haram Sharif, Makkah, Madina, encore Makkah, un peu moins joli. Mais regardez autour de Haram Sharif, Madina. Regardez la beauté des hôtels. Sans citer de nom. À Makka, regardez Darut Tawhid, Darut Taqwa. Regardez comment Intercontinental, c'est un hôtel magnifique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, le Waqf de l'Amir Abdallah. Comment c'est? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans d'autres endroits, j'ai pas visité beaucoup de pays, mais est-ce que même en Occident, est-ce qu'on trouve des hôtels, des constructions aussi impressionnantes, tout en marbre? C'est vraiment exceptionnel. Ça ne veut pas dire que c'est haram. On fasse le haram chez nous, on fait le haram, non. Ça ne veut pas dire que c'est haram. Cela fait partie des adats, des habitudes des gens avant le Qiyamah de décorer au maximum les bâtiments. Taïb. Également concernant les masjids, il y a certains signes, décorer les masjids, il y a des signes concernant les haram sharif, les haramen, il y a certains signes, on va s'arrêter, certains signes concernant les matières premières. Il y a des signes, hadith précises qui parlent de matières premières venant du Hijaz, donc de l'Arabie. On comprend de quoi cela veut parler. des hadiths qui parlent de l'or concernant les trésors que la terre va ressurgir. C'est des hadiths qui parlent de tout ce qui est spatio-temporel. Taqarubu zaman, que le temps se rapprochera. Plus de barcade de le temps. Également, taqarubu aswaq, que, comme on l'a dit tout à l'heure, les relations commerciales seront très rapides et très faciles. En un clic, on peut commander quelque chose en métropole et on a livraison en quelques jours. Tout ça, c'est les petites qiyamah. Et puis, on va finir avec certains signes concernant le ahlam, qu'il n'y aura plus de muhabbat. Il y aura des gens qui seront frères dans le livret de famille, mais intérieurement, ils seront ennemis. Également, concernant les meurtres, le nombre de meurtres. À l'époque, ça c'est un exemple qu'on dit toujours aux élèves. À l'époque, pour tuer quelqu'un, combien de temps il faut? Avec quoi pour tuer quelqu'un? Il y a 14 siècles. Avec un couteau, alors avec un sable. Il faut tuer quelqu'un, il faut bien frapper. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il faut trouver le bon endroit. Ou alors, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Je ne l'ai jamais fait. Mais de nos jours, avec une grenade, 20 personnes peuvent mourir. Ou alors plus, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle 4 ratoul qatl. Une personne, regardez ces kamikazes. Ces gens qui, au nom d'Islam, ils peuvent faire n'importe quoi. Après, les problèmes qu'ils causent dans toutes les civilisations, même chez les musulmans, ils causent des problèmes. Mais une personne peut causer la mort de vingtaine, voire de trentaine de personnes. Vous voyez, ça fait partie des petits signes de Qiyamah. Il y aura beaucoup de morts, des tueries. Et de nos jours, depuis quelques années, on a même constaté autre chose qu'on appelle les génocides. Ce qui était impensable avant. Il y a 14 siècles de cela, on ne pouvait pas imaginer que dans l'affrontement qu'il y ait autant de morts au maximum. Dans les plus grandes batailles de Yarmouk, ou alors les plus grandes batailles, il peut y avoir 1000 morts, 2000 morts. Mais de nos jours, 2000 morts, c'est quoi? C'est quoi 2000 morts dans une guerre? C'est rien du tout. Il y a Hiroshima, combien de morts il y a? Donc, Kasratul Qatl, des tueries et des génocides. Également, parmi les signes de Qiyamah, le fait que tellement la vie sera délicate, sera difficile de vivre avec les problèmes que les gens voudront mourir. Les gens espéreront mourir. Maintenant, on finira avec certains signes concernant les changements climatiques, les phénomènes naturels. Beaucoup de toufans, beaucoup de zalazil, beaucoup de tremblements de terre, des vents très puissants, de la foudre, qui s'abat. Et on a qu'à regarder ce qui s'est passé au Bangladesh il y a quelques jours, hein, des tempêtes, ça fait partie des petits signes de Qiyamah. Également, des populations entières seront ensevelies. Et on finira avec un dernier signe qui concerne beaucoup de gens. Et selon les cardiologues, cela concerne beaucoup notre communauté. C'est ce qu'on appelle en arabe Mawtul Faj'a. Mawtul Faj'a, c'est quoi? C'est un terme qu'on a adapté dans le football, la mort subite. Mais Mawtul Faj'a, littéralement, ça veut dire Faj'atan, ça veut dire subitement. C'est que une personne, les ulama ils expliquent, c'est qu'une personne est en bonne santé, elle vit parmi nous, elle travaille, vient à la masjid, une vie familiale, et tout d'un coup la personne meurt, sans être malade. Et dans les commentaires ils disent que c'est ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, souvent il n'y a pas de signe. C'est-à-dire une personne, elle a l'air d'être en bonne santé, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et la personne meurt instantanément. Et justement, quand il y avait un médecin, un cardiologue qui récemment disait que dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de problèmes dus à notre alimentation, regardez ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à propos de l'excès d'alimentation. Le prophète disait Khayru ummati qarni. Vous connaissez ça, on entend sur le mimbar. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mais vaut mieux qu'on s'arrête là, de la hadith sur le mimbar. Sinon les gens ne seront pas contents. Les meilleurs des communautés, c'est ma communauté, parmi ceux qui viennent ensuite et ceux qui viennent ensuite. C'est-à-dire, un qarn ensuite et un qarn ensuite. Les ulama disent que c'est 3 siècles jusqu'à après le prophète, c'est les meilleurs des gens. Thumma inna ba'dakum qawman yashhaduna wa la yastashhadun wa yakununa wa la yu'tamanun wa yundiruna wa la yufun. C'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire, le prophète explique que c'est des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, etc. Wa yabharu fihim as-saman. Et c'est des gens qui deviendront corpulents. C'est des gens qui deviendront corpulents. Et le prophète, hein, dans ce hadith, lorsqu'il explique cela, il y a d'autres riwayats encore qui disent la même chose, et dans les commentaires, les ulama ils expliquent que ils disent que c'est-à-dire que ce sont des gens qui auront un excès dans leur consommation, dans leur mode de vie, dans leur consommation, il y aura excès, ce qui fait que ce seront des gens très portants. Vous voyez? Et puis ils expliquent également, et on lit le texte wal madmoumu minhu man yastaksibuhu. Ce qui est mauvais dans ce que le prophète a dit, hein, ce qui est mauvais, c'est la personne qui, par ses excès de consommation, devient corpulent. Elle devient, la personne prend du poids. وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهِ خُلْقُهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا. Alors qu'une personne, tandis que pour une personne qui, de sa propre nature, certains scientifiques disent que parfois c'est dans les gènes, l'obésité, parfois c'est dans les gènes. Allah a'lam, hein, ils disent qu'il y a des gens qui, même s'ils ne consomment pas beaucoup, mais comme les parents, les grands-parents, les uns et les grands-parents étaient de forte corpulence, comme il y a des gens qui, dans leur gène, c'était qu'ils étaient, ils seront longs, ben, il y a des gens qui seront portants, même s'ils ne mangent pas beaucoup. Elle dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. وَالْمُتَكَسِّبُ لَهُ وَالْمُتَوَسِّعُ فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ. Ce qui est mauvais, c'est la personne qui a des excès dans ce qu'il mange et dans ce qu'il boit. Et ça, c'est quelque chose de profondément nuisible. Alors, on voit que même le fait de manger excessivement, déjà, c'est contraire au principe du Prophète qui le mangeait un petit, qui laissait un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Et ça me rappelle une fois, je faisais tarawih quelque part, et avant le tarawih commence, je demandais un des imams avec moi, et vous la mangez? Elle dit, un tiers c'est tout. Il a un tiers, même pour manger de façon. Il ne mange pas plus que ça de façon. Le Prophète il mange un tiers, le tiers il reste deux tiers encore vite. Fait rêve, Inch'Allah. Donc, même cela. Alors, quand il y en a qui disent que l'obésité, ça, c'est génétique, moi je suis désolé, mais quand on regarde les pays du tiers-monde, c'est depuis quelques années qu'il y a apparition du diabète, apparition de l'obésité. Parce que il y a certains khayrats, hein, ils se sont développés sur le plan économique, donc le mode de consommation a changé, ce qui fait que jamais avant il n'y avait pas d'asiatique obèse. C'est par un nouveau mode de consommation qu'a apparu cela. Et ça fait partie des petits signes de qiyamah. On finira juste avec le qaïda. Le qaïda, ça veut dire la règle. On comprend pas plusieurs choses. Le qaïda, c'est la règle concernant les petits signes de qiyamah. Il faut savoir qu'ils ont déjà commencé. Et cela durera sur des milliers d'années, contrairement aux grands signes de qiyamah qui durent sur un laps de temps très court et qui s'enchaînent. Imam Mehdi, à l'époque de Isa, à l'époque de Dajjal, à l'époque de Gog et Magog, etc., etc., ça s'enchaîne. Alors que les petits signes de qiyamah peuvent être très distants et sur des milliers, voire Allah seul sait combien de milliers d'années. Également, le fait que les petits signes arrivent, ça ne veut pas dire que le qiyamah c'est demain. Et ça nous fait comprendre également, on aura l'occasion de parler, notre conception du temps. Et quand Allah dit que le qiyamah est proche, quand Allah dit proche, et nous la conception du proche c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une différence également dans la conception des choses. Également, tous les petits signes ne sont pas mauvais, comme on a dit, hein, la vie du prophète, c'est un des petits signes, c'est la sunnah d'Allah, et également, après que tous les petits signes se seront produits, qu'apparaîtront les grands signes. Alors, on continuera à citer de manière brève comme ça, les petits signes la prochaine fois, Inch'Allah, et on expliquera certains de ces petits signes, et remarquez que il y a quelques signes seulement qui ne sont pas produits parmi les petits signes de qiyamah, le fait que la péninsule arabe redeviendra verdoyante. Deuxièmement, que les animaux à une époque, et ainsi que les êtres inanimés comme les pierres, parleront aux gens, s'adresseront aux gens, et cette fameuse montagne d'or qui apparaîtra sous le fleuve de l'Euphrate. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre iman d'une rêve par la croyance que ces signes qui parfois peuvent paraître irréels, mais si, on répète, on le répétera toujours encore, si on est capable de croire en ces événements aussi exceptionnel, nous devons encore plus croire à ce que nos prophètes nous annonçaient sur la pratique de la salat, sur les récompenses, sur les mises en valeur. Qu'Allah nous t'offre de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos soeurs.